Chapitre 4. Quelques lueurs dans les ténèbres. Si bien trempé que soit le caractère d'un homme, et Sholmès est de ces êtres sur qui la mauvaise fortune n'a guère de prise, il y a cependant des circonstances où le plus intrépide éprouve le besoin de rassembler ses forces avant d'affronter de nouveau les chances d'une bataille.
« Je me donne vacances aujourd'hui, » dit-il. « Et moi ?
Vous, Wilson, vous achèterez des vêtements et du linge pour remonter notre garde-robe. Pendant ce temps, je me repose. »«
Reposez-vous, Sholmès. Je veille. »
Wilson prononça ces deux mots avec toute l'importance d'une sentinelle placée aux avant-postes et par conséquent exposée aux pires dangers. Son torse se bomba. Ses muscles se tendirent. D'un œil aigu, il scruta l'espace de la petite chambre d'hôtel où ils avaient élu domicile.
« Veillez, Wilson. J'en profiterai pour préparer un plan de campagne mieux approprié à l'adversaire que nous avons à combattre. Voyez-vous, Wilson, nous nous sommes trompés sur Lupin. Il faut reprendre les choses à leur début.
Avant même, si possible. Mais avons-nous le temps ?
9 jours, vieux camarade, c'est 5 de trop. »
Tout l'après-midi, l'anglais le passa à fumer et à dormir. Ce n'est que le lendemain qu'il commença ses opérations.
« Wilson, je suis prêt. Maintenant, nous allons marcher.
Marchons !»
s'écria Wilson, plein d'une ardeur martiale.
« J'avoue que pour ma part, j'ai des fourmis dans les jambes !»
Sholmès eut 3 longues entrevues, avec Maître de Tinan d'abord, dont il étudia l'appartement dans ses moindres détails, avec Suzanne Gerbois, à laquelle il avait télégraphié de venir et qu'il interrogea sur la dame blonde, avec la sœur Auguste enfin, retirée au couvent des Visitandines depuis l'assassinat du baron d'Autrec. À chaque visite, Wilson attendait dehors, et chaque fois, il demandait
« Content ?»«
Très content. »«
J'étais certain, nous sommes sur la bonne voie. Marchons !»
Ils marchèrent beaucoup. Ils visitèrent les 2 immeubles qui encadrent l'hôtel de l'avenue Henri-Martin, puis s'en allèrent jusqu'à la rue Clapeyron. Et tandis qu'il examinait la façade du numéro 25, Sholmès continuait «
Il est évident qu'il existe des passages secrets entre toutes ces maisons. Mais ce que je ne saisis pas... »
Au fond de lui, et pour la première fois, Wilson douta de la toute-puissance de son génial collaborateur. Pourquoi parlait-il tant et agissait-il si peu?
Pourquoi?
S'écria Sholmès, répondant aux pensées intimes de Wilson.
« Parce que, avec ce diable de Lupin, on travaille dans le vide, au hasard, et qu'au lieu d'extraire la vérité de faits précis, on doit la tirer de son propre cerveau pour vérifier ensuite si elle s'adapte bien aux événements. Les passages secrets, pourtant. Et puis quoi? Quand bien même je les connaîtrais, quand je connaîtrai celui qui a permis à Lupin d'entrer chez son avocat, ou celui qui a suivi la dame blonde après le meurtre du baron d'Autrec. En serais-je plus avancé? Cela me donnerait-il des armes pour l'attaquer?
Attaquons toujours!
S'exclama Wilson. Il n'avait pas achevé ces mots qu'il recula avec un cri. Quelque chose venait de tomber à leurs pieds, un sac à moitié rempli de sable qui eût pu les blesser grièvement.
Oh!
Sholmès leva la tête. Au-dessus d'eux, des ouvriers travaillaient sur un échafaudage accroché au balcon du 5e étage.
« Eh bien, nous avons de la chance !» s'écria-t-il. « Un pas de plus, et nous recevions sur le crâne le sac d'un de ces maladroits. On croirait vraiment ?»
Il s'interrompit. Puis bondit vers la maison, escalada les 5 étages, sonna, fit irruption dans l'appartement, au grand effroi du valet de chambre, et passa sur le balcon. Il n'y avait personne.
Les ouvriers qui étaient là, dit-il au valet de chambre. Ils viennent de s'en aller.
Par où ?
Mais par l'escalier de service. Sholmès se pencha. Il vit deux hommes qui sortaient de la maison, leurs bicyclettes à la main. Ils se mirent en selle et disparurent.
Il y a longtemps qu'ils travaillent sur cet échafaudage ?
Cela ? Depuis ce matin seulement. C'était des nouveaux.
Sholmès rejoignit Wilson. Ils rentrèrent mélancoliquement, et cette seconde journée se termina dans un mutisme morne.